Prévenir. À l'âge adulte, le cœur en miettes, des années plus tard. Bien sûr, il faudrait prévenir, savoir avant que l'après, jamais plus, ne tournera rigolo. Et pourquoi pas un banquet, une fête, un sacrifice à l'enfance enfouie. Dresser quelques barricades pour la forme, pour étoffer les résistances. Encore un instant pour rassembler les merveilles, bien entassées, là, comme une chambre en désordre, de la réserve, de quoi tenir, en somme. Coller encore quelques images dans un cahier, bien à soi, tenu tout proche de l'empreinte vive. Avoir le temps de fixer une photo, s'assoiffer des autres, des bons moments, des plus sévères. S'étouffer d'une affection que l'on n'a pas su nommer parce que nommer, c'est déjà pour ceux entachés du malheur, pas moi. On ne thésaurise pas le bonheur à si jeune amplitude. Il faudrait prévenir, savoir avant que l'avant, jamais plus. Année zéro, se souvenir. Il faudrait se souvenir de ce qui a précédé, la soirée, la veille, de ce qu'il y a eu de crétins et de gamins, les rires, trouver quelque chose amusant, affabulé, se souvenir de la nuit interrompue brutalement. Tout ce qui pouvait faire l'allégresse d'alors, ces personnages que je m'inventais pour ne pas avoir peur dans le noir trop dense, il faudrait cela qui résiste à tout. Année zéro. C'est pour ça qu'il faudrait prévenir et se souvenir, pour bâtir des châteaux débonnaires. Je n'ai pas eu le temps.
France Inter. Julia Foyce, unique en son genre.
Ces mots, ceux que je viens de lire, ce sont les vôtres. Adrien Borne, bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est sur ce morceau de Jan Tiersen que vous les avez écrits. La vie qui commence, c'est le titre de votre deuxième roman, ou comme pour le premier, Mémoire de soi. Vous écrivez sur le souvenir, sur la mémoire, et comment elle nous échappe, et comment on la retrouve, et comment elle nous raconte. Sauf que c'est de votre mémoire à vous qu'il s'agit, cette fois. Il fallait la sonder, il fallait raconter.
Il fallait raconter, oui, il le faut, absolument, impérativement. Je n'ai aucun doute là-dessus, et j'ai pour modèle en la matière Annie Ernaux. Mmh. C'était indispensable de raconter et ça nous est tombé dessus.
Elle dit, je pense que ce qui m'est arrivé en parlant de l'événement, c'est ça m'est arrivé pour que je puisse le raconter, c'est ça. Votre événement à vous, ce que vous racontez, ce sont les agressions sexuelles multiples répétées que vous avez subies l'été de vos 13 ans et l'amnésie totale, longue de 20 ans qui a suivi. Dans cette histoire, la vôtre, beaucoup vont se reconnaître, Adrien Borne. C'est une façon aussi pour vous de participer à un mouvement collectif, une façon de vous engager. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut raconter pour soi, mais il faut raconter aussi pour les autres.
Oui, ou alors on se tient en retrait. C'est le choix qu'on peut faire, c'est-à-dire se tenir à côté de la vie, tout simplement. Et à côté de la vie, on se tait, on ne partage pas, et on s'ignore d'une certaine manière. Bon, moi j'ai décidé, à ma manière, de me tenir face à la vie. Et pour ça, il faut prendre sa part de responsabilité, chacun à son niveau, dans son écosystème, pour partager. Et partager en écrivant, en écoutant.
Ce roman, c'est une quête de vos souvenirs, quête aussi de vous-même. Qui êtes-vous avec ou sans le souvenir? Qui êtes-vous avant ou après ces matinées dans la chambre verte? Qui êtes-vous aujourd'hui? Je vous tends ce miroir. Je vais vous demander de vous regarder dedans. Prenez le temps, dites-nous. Que voyez-vous quand vous regardez? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que vous aimez moins? Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire de vous?
Je porte des lunettes en permanence depuis 30 ans. Je ne sais pas si je me cache derrière. Mais ce que je vois, je les ai donc là sur le nez, ces lunettes en question, vous pouvez en témoigner.
Ronde et en écaille, oui.
Et ce que je vois, c'est une dissymétrie des yeux. Et je crois qu'on n'est jamais complètement symétrique, non?
Mais vous êtes le seul à la voir, par contre, cette dissymétrie.
Bah ouais, mais elle est quand même... Si, elle est spectaculaire. Regardez bien. Et je crois qu'on est tous dissymétriques. Et dans Mémoire de soi, j'avais ce personnage manchot. Et dans La vie qui commence, un personnage qui boite. Et je crois, en me regardant là comme ça, que la dissymétrie occupe une certaine place sur ma tronche et dans la vie.
Et ça raconte quoi, la dissymétrie? C'est un droit à l'imperfection, c'est ça?
Ouais.
C'est un droit à la complexité?
C'est un droit à la nuance, parce que la dissymétrie, c'est une nuance, finalement. Vous voyez, la preuve, vous ne voyez même pas que je suis dissymétrique, alors que pourtant, franchement, vous avez abandonné trop tôt vos études de chirurgie esthétique. C'est pour ça que vous ne voyez pas cette différence notable.
Mes études d'optique, je ne sais pas. Il y a aussi ce demi-sourire sur votre visage, demi-sourire dont on reparlera dans cette émission. Demise plutôt classique, on pourrait dire a priori que rien chez vous ne peut tuer le mauvais goût. À part peut-être une casquette que vous portez tous les jours, sauf ici, mais je crois qu'elle est là, sur la chaise en face de moi. Casquette comme un clin d'œil volontaire, dites-vous, à une crise d'adolescence que vous n'avez jamais faite. Ça pourrait être ça, votre mauvais genre, c'est ce que vous nous avez dit en préparant cette émission. Ou alors votre mauvais genre, c'est témoigner, ça fait mauvais genre de témoigner, ça se fait pas.
Ah, c'est déjà pas le même registre. Témoigner, est-ce que ça fait de vous un pestiféré de témoigner? Je pose la question. Et est-ce que ça fait mauvais genre de témoigner? Au sens, non pas tant de témoigner, mais qu'est-ce que vous êtes devenu après le témoignage? C'est-à-dire que, est-ce que après avoir parlé, les gens se détournent? Parce que
vous portez le malheur en vous? Parce que...
Je m'interroge.
Vous dites... ce qui pourrait mettre à mal une forme de système, c'est ça? Il y a...
Aussi, parce que il y a beaucoup de choses qu'on veut pas voir autour de nous, et on s'en rend compte tous les jours, encore.
Oui, tous les jours depuis 5 ans, oui.
Oui, de manière assez nette. C'est spectaculaire, c'est violent, donc est-ce que ça fait pas mauvais genre d'avoir parlé? C'est-à-dire que sur le moment, d'aucuns viennent saluer votre courage, parce qu'on parle de courage, même si je pense que c'est peut-être encore différent, que c'est peut-être pas seulement du courage, mais... Après, juste après là, vous voyez les petites heures qui sont passées. Là, vous êtes rentré chez vous, vous êtes sur votre canapé tout seul, et c'est là que je pense qu'on commence un peu à faire mauvais genre. Et d'ailleurs, qui ne peut pas témoigner de gens qui se sont détournés après la prise de parole? Certains l'ont fait, parce que c'était difficile, parce que ça gêne, parce que. Vous savez, des gens sont venus me voir en me disant « Mais pourquoi t'as parlé ?» Non mais parce que, ouais. Bon, c'est intime, parce que quand même ça relève de ci, parce que ça relève de ça, parce que... Mais il y a pas de parce que, et le parce que c'est le mauvais genre. Voilà, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé, sans aucune rancœur. Tant pis, c'est ainsi.
Et que l'intime, c'est de la politique et de la littérature. C'est ce que vous nous prouvez dans ce La vie qui commence, magnifique livre, La vie qui commence. À part ça, vous nous avez dit que vous aimiez le rugby, le regarder, vous jeter dans la mêlée, gauler comme un lapin de 3 semaines, j'adore cette expression. Vous hésitez devant la télé, vous pelez une mandarine, le fruit qui a le rapport emmerdement épluché / plaisir le plus élevé. Et puis dehors, vous regardez parce que vous aimez les vues dégagées, la mer, un pan de Paris, quelque chose où le regard se perde dans l'incalculable, surtout rien de définissable, comme les effluves de whisky. Vous aimez le whisky aussi, surtout le japonais et l'irlandais. Ça aussi, ça fait mauvais genre. Ça non plus, on n'a pas le droit de le dire, oui. Mais le whisky, ça vous apaise, c'est votre cérémonial. Sauf que vous n'êtes pas sûr, en fait, que ce soit si intéressant que ça de s'apaiser. L'attention, vous aimez le cœur et le ventre malmenés. Là, il y a de l'énergie. Là, il y a comme un copinage avec la mélancolie.
Moi
Malik Djoudi, Saatchi, vous êtes sur France Inter avec, à la technique d'Unique en son genre, Ronan Mahé, à la réalisation Marie-Annick Rimbaud, chargée de programme Ophélie Vivier. Une émission réalisée cette semaine avec le concours de Lina et Emmanuel Luccioni. C'est avec elle aussi qu'on se replonge dans vos souvenirs, Adrien Borne, et de cette vie qui commence.
Unique en son genre.
La vie qui commence, titre de votre deuxième roman, roman-récit avec un peu beaucoup de vous dedans. Pour vous, tout commence un 18 juin 81. François Mitterrand vient d'être élu, la France a basculé à gauche, l'espoir des uns, la peur des autres, au milieu vos parents, les parents de ce nouveau-né que vous êtes. Il est 11h, maternité de Rueil-Malmaison. Autour du couffin, on a Anne-Marie, institutrice, fidèle à une certaine idée de la République, fidèle à une école où elle restera 40 ans et où vous passerez aussi petit Adrien. Avec elle, il y a Jean-Paul, publicitaire, brocanteur et insomniaque. Mais à part ça, qui sont vos parents? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on sache de... Qu'est-ce qui est signifiant dans l'homme que vous êtes aujourd'hui?
Oh, oh, vous avez dit déjà et employé des mots importants, c'est-à-dire que c'est très difficile de se définir, mais je trouve que quand même ma maman se définit comme une institutrice dans l'attention qu'elle a apportée aux enfants qu'elle a accompagnés tout au long de sa carrière. Ça, c'est très important pour moi. Et c'est très important le mot brocanteur chez mon père, parce que c'est l'attention à l'objet, à ce qui va faire, selon lui, un peu le beau de la maison. Et ces deux-là, eh bien, ça ne fait pas forcément des additions spectaculaires. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'ai eu une enfance qui est finalement assez linéaire, à part des événements, mais qui ne sont pas liés à ma famille. Mais ça fait un confort. Et je retiens ça un peu, malgré tout.
Alors, vous grandissez effectivement dans les Yvelines, banlieue privilégiée, malgré un horizon un peu borné, sans mauvais jeu de mots. Vous n'êtes pas loin de Paris. Enfin, vous auriez été tout près si vous aviez eu l'autorisation de prendre le métro. Mais donc, non, comme vous n'avez pas le droit, ben vous y restez. C'est une impasse. Dans cette impasse, le roi, c'est lui, Poussy, votre chat de gouttière. Vous en êtes hyper fier. Il met la raclée à tout le quartier. Est-ce qu'il le fait à votre place? Est-ce que, enfant, c'est votre truc, la bagarre? Pas vraiment.
Pas du tout. Bah non, alors le limpin de trois semaines, ça commence très très tôt.
J'ai adoré cette expression.
C'est-à-dire, bon, un gringalet, pas bagarreur pour un sou, mais j'avais un chat qui le faisait à ma place. Et donc il y avait la voisine qui venait de temps en temps avec son matou à elle, en disant c'est votre chat qui a fini de racler au mien. Bon, je savais pas trop quel élément de preuve elle avait, mais bon, moi je disais rien, j'étais caché dans le coin. Je disais, ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui lui ait mis une raclée. Mais pour moi, la part de virilité s'arrêtait à l'exercice de domination d'un chat, et c'était finalement pas plus mal.
Votre truc à vous, c'est plutôt le tennis hein, que la baston. Sans prasse, courir Noah, le mur de votre chambre est couvert de posters. Mais un peu plus tard, adolescent, vous les arrachez pour écrire. Mais pour écrire quoi?
Tout ce que je lis. Une partie de ce que je lis, et pour essayer de comprendre, sans doute que je mesure à ce moment-là l'importance des mots, d'une forme de poésie. Il y a Gainsbourg, il y a « J'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme de tous les télégrammes que tu recevras jamais », Overseas Télégramme. Et il y a du Camus, il y a des paroles de chansons comme ça, et ça occupe mon espace.
Vous êtes déjà porté par les mots, vous ne savez pas encore qu'ils vous sauveront plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Tous les week-ends, votre père prend un stand aux puces de Vanves, parfois vous y allez avec lui. Sur le pont, dès 5h du matin, vous pique-niquez sur une table Louis XV et vous voyez fasciné l'argent passer de main en main. Vous rentrez, vannez, le dimanche soir à la maison, le dimanche soir chez vous, on ne dîne pas, on grignote sur la table basse en écoutant la radio, France Inter, si si. Et juste avant l'émission préférée de toute la famille, on entend ceci.
Pour les zones Sud-Irlande, Sol et Manche-Ouest, avis de grand frais, 7 de Nord-Est en cours. Pour les zones Lyon et Provence, avis de grand frais, 7 d'Est à Sud-Est en cours. Situation générale et évolution. Anticyclone supérieur à 1030 millibars, quasi stationnaire au Nord-Ouest de l'Irlande.
Dépression inférieure. Je vous entends, je vous vois sourire à l'atmosphère des dimanches soirs. Elle donne le sourire dans le souvenir.
Ah, c'est exactement ça, la météo marine. N'y rien comprendre. C'est quand même c'est l'émission la plus poétique de la radio. C'était, je crois, malheureusement. Et c'est exactement le dimanche soir. On est autour de la table. Ma mère, avec un courage absolu, décide tous les dimanches de ne pas faire le dîner. C'est-à-dire que c'est salade et fromage. Et on sent qu'il y a là un geste d'émancipation fort chez elle. Et on écoute la météo marine avant le masque et la plume de mémoire. Et à cette heure-là, et c'est très beau, la météo marine.
Cette météo marine annonce un vent de force 4 le jour du départ en bateau, départ pour la colo. Vous avez 13 ans, vous aimez la colo?
J'adore la colonie de vacances.
Vous aimez quoi? L'atmosphère de groupe? Vous aimez les vacances?
J'y vais tout le temps, on est enfant, et on découvre la vie. C'est ça la vie qui commence. C'est la vie en groupe, c'est la vie avec les autres. Ce sont les jeux, les découvertes, les bêtises.
La traversée, en revanche, vous la redoutez, vous êtes toujours malade en bateau, mais pas question de vomir devant les autres, votre dignité, vous y tenez alors. Vous cherchez une pièce pour vous cacher, sur votre épaule, vous sentez une main comme une araignée. Vous vous retournez, c'est Yannick, un moniteur en jogging rouge. Il fume, il n'a pas le droit d'être là lui non plus. Vous savez, l'un pour l'autre, vous vous taisez, pacte secret. Vous arrivez sur l'île, elle est parfaitement isolée, vous êtes répartis par chalet et par tranche d'âge. Le mono du vôtre, de chalet, c'est Yannick. Mais vous, ce qui vous intéresse, ce sont les grands du chalet d'à côté. Ce groupe vous fait envie, pourquoi ? Le groupe des grands.
Parce que c'est ce moment merveilleux de la vie où, à 12 ans, vous rêvez d'en avoir 13, parce que c'est le Graal d'avoir 13 ans alors que vous n'en avez que 12. Et les grands, ce sont les accélérateurs de particules. Et dans mon enfance, j'ai souvent été tourné vers les grands parce que j'avais l'impression qu'ils me faisaient gagner du temps. Alors très vite, on se rend compte dans la vie que on aimerait tout ralentir et à 20 ans, on aimerait en avoir 19 et puis enfin ça va, c'est surtout après que ça commence à se compliquer. Et donc les grands m'attirent parce qu'ils peuvent potentiellement me faire découvrir.
Alors pour que les grands vous acceptent, quel code il faut adopter ? Quelles sont les règles du jeu ?
Les règles du jeu, c'est de se tenir à sa place, mais de temps en temps, savoir faire le pas de plus qui vous permet de sortir un peu de votre place. Alors ça peut être par le sport, parce que vous gagnez une place, parce que vous êtes bon en sport, ça peut être par quelques bonnes réparties, ça peut être parce qu'il faut rire aux bonnes blagues et au bon moment.
Ça veut dire un peu être un bonhomme aussi, hein, déjà.
Ouais, ouais.
La pire des insultes, c'est d'être une fille, une gonzesse, une mauviette ou un pédé, quoi.
Ah bah oui, non, ça c'est pas... Oui, effectivement, c'est pas recommandé d'être ainsi classé. Donc il faut accepter, on parlait de virilité tout à l'heure, dès l'enfance ça commence. C'est le jeu de rôle, là. C'est le jeu de rôle qui commence, et savoir être un mec parmi les mecs. Et il faut, petit mec, mais ouais. Petit mec parmi les petits mecs.
Et alors, tous les petits mecs se retrouvent le soir devant les toilettes. Qu'est-ce qu'il s'y passe ?
Est-ce que c'est la naissance du désir ? Je suis pas sûr que ce soit le bon désir, mais on s'échange un truc.
Un magazine.
Ouais, on s'échange un magazine qui est même pas, attention, hein, nommons les choses, pas du tout un magazine porno. C'est un magazine où il y a des filles dévêtues.
Et les genre un catalogue vêtus. De grands magasins, ça pourrait être ça, quoi.
Ça en pourrait être un plus plus.
On est entre le catalogue La Redoute et un Playboy, quoi.
Ouais, voilà. Parce que le catalogue La Redoute, il est difficile à planquer. Donc, ouais, stratégiquement, c'est pas simple. C'est pas simple. Et ces femmes dévêtues, elles regardent l'objectif.
Vous, à un moment donné, Julien, le chef de bande, vous propulse dans les toilettes, c'est à vous de prendre le magazine et de vous y enfermer. Comment est-ce que vous vous sentez? À votre place,
pas du tout à ma place, parce que je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que c'est que ce truc là. Alors donc c'est des
très
femmes
jeune.
Nues, ben voilà.
Par rapport au grand là.
Ben exactement, et c'est pour ça que vouloir être grand trop vite, ça représente quelques limites, et que il y a un moment, je vous disais que ces femmes, elles regardent l'objectif, donc elles me regardent moi, en train de les regarder, et ça c'est quand même un peu trop fort. Donc Il faut refermer le livre, et puis il faut faire semblant d'avoir fait quelque chose, Comme les autres.
On continue à jouer
comme
dans la cour des grands, quoi. Ouais, comme tous ces petits mecs, effectivement. Un soir, tous les petits mecs se font attraper par Yannick. Julien, le chef de bande, veut le lui faire payer. C'est quoi son idée ?
Julien, il a l'idée toute simple d'enlever les lattes. J'en rigole parce que...
parce que l'idée est drôle.
Parce que l'idée est drôle et que... on l'avait fait. Et on avait enlevé les lattes du lit du mono de Yannick. Parce que c'est drôle, parce que comme ça, quand il va se coucher, il va tomber. C'est une idée d'enfant, mais c'est une idée d'enfant drôle.
Il tombe, et qu'est-ce qui se passe après ?
Il punit, il fait courir les enfants, de nuit, dehors, plusieurs fois, dans cette nuit. Et moi, je porte même pas un pyjama, c'est un pyjama, mais c'est une grenouillère. Et les grenouillères, ça se fixe avec des boutons pression dans le dos, c'est très enfantin. Et on court comme ça, pieds nus. Ce moniteur, pour se venger, parce que je parle de vengeance, est dans l'épreuve physique, déjà.
Encore un code de la masculinité.
L'épreuve physique visant les plus faibles, les enfants en l'espèce.
Alors vous êtes un enfant, et vous êtes le seul des enfants de ce chalet à avoir participé à la blague et à avoir fait partie de la bande des petits mecs des toilettes. Et ça, Yannick le sait. Le lendemain de la punition, le lendemain du jour ou de la soirée où il fait courir dans le pré-pieds nus et où vous fait faire aussi la chaise, appuyer le dos au mur avec les cuisses qui vous brûlent, mais il faut tenir et surtout ne pas lâcher. Le lendemain matin, c'est là que ça va se passer, dans votre chambre verte. Tout va basculer. Est-ce que vous pouvez raconter ? Est-ce que vous voulez que je résume ?
Résumer.
Ouais.
Yannick rentre dans la chambre. Il va s'allonger sur vous. Et il va faire de vous l'objet de ses désirs, de ses envies de punition, d'humiliation, de sa perversité. Vous avez au réveil les jambes qui brûlent. Jamais on ne vous les avait touchées comme ça, les jambes qui brûlent, la tête en bouillie. Est-ce que c'est normal ce qui s'est passé? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est interdit? Ben non. Sinon, Yannick ne lèverait pas son verre à votre santé à l'heure du petit déjeuner. Verre de jus d'orange, vous le précisez. Ça veut dire qu'il vous aime bien, ça veut dire qu'il vous voulait du bien. D'ailleurs, c'est un massage qu'il vous a fait, c'est ce qu'il vous a dit. Alors tant pis pour les jambes en tétanie. De toute façon, ça vous arrive souvent. Votre mère vous dit que c'est parce que vous grandissez que ça fait mal comme ça. Alors elle vous dit, pense à autre chose pour trouver le sommeil, pense à des jolies choses que tu aimes, pense à Bambi, le dessin animé, vous y penserez chaque fois que Yannick viendra vous trouver cet été-là, vous les regarderez par la fenêtre, les écureuils, par la fenêtre de cette chambre verte, vous les regarderez s'amuser dans les arbres dehors, et Bambi, vous y penserez.
Regardez, il essaye de se mettre sur ses pattes.
Cet enfant est épuisé, il a besoin de sommeil. Allons, il est temps de prendre congé. Allez, on s'en va. Venez.
Bambi ne va pas réussir à faire oublier que Yannick vient, lui, tous les matins. Tous les matins, votre corps paralysé, état de sidération caractérisé, dirait-on aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, on ne le dit pas. À l'époque, ces choses-là, on n'en parle pas, on ne les connaît pas. Vous non plus, vous ne savez pas, vous non plus, vous ne parlez pas, vous ne dites rien, jamais, à personne de ce qu'il se passe, de ce que vous fait subir Yannick dans la chambre verte le matin.
Rien jamais. Rien jamais pendant 22 ans.
Et à ce moment-là, au moment de la colo, qu'est-ce qui vous retient? C'est la peur? C'est le fait de ne pas avoir de mots sur ce qui se passe? C'est quoi qui vous retient?
Vous savez ce qui se passe. Je suis un peu bouleversé parce que par cet enchaînement que vous faites, parce que c'est exactement ça. Au début de Bambi, la maman de Bambi meurt, mais au fond, ces hommes-là, ils tuent Bambi d'une certaine manière. Si vous me permettez cette image, l'enfance, ce ne sont que ces rires-là qu'on entend dans cet extrait, rien d'autre. Et puis malheureusement, d'autres décident que ça doit être justement cette part de violence. Et pour répondre à cette question, tout acte, je crois, violent, toute violence sexuelle entraîne des questions. Et les questions commencent. Et on va traîner toute sa vie une série de questions. Et donc, ne rien dire, c'est parce qu'il y a trop de questions. Il y a trop de questions. C'est-à-dire qu'on en est même à savoir, à cet âge-là, et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire à travers la voix de Gabriel dans ce livre, se dire, mais est-ce que c'est mal? Enfin, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est sur un niveau, il faut l'entendre ça. C'est-à-dire que l'enfant, il ne sait même pas si c'est mal.
Et donc, puis le moniteur fait autorité, et puis vous êtes
exactement.
Dans une île complètement isolée. Alors, c'est pas forcément une île dans la réalité, mais n'empêche, il y a l'isolement de la colonie de vacances. Et puis, il y a cette question qui tourne en boucle dans votre tête, c'est pourquoi moi?
Oui.
Et le pourquoi moi, ça veut dire, c'est peut-être un peu de ma faute, quoi.
C'est peut-être un peu de ma faute, c'est peut-être... Est-ce que c'est un privilège?
Non mais... D'avoir été choisi, ouais.
Mais...
Parce que c'est ça,
bien sûr.
Je vous fais croire.
C'est un paramètre. Donc à un moment, noyé sous les questions, faute de réponse, faute de repère.
Et puis il faut faire le bonhomme. Donc il faut certainement ni aller se plaindre, ni
absolument.
Dire qu'on a été victime de quelque chose.
Absolument. Ça, c'est, là aussi, il y a en plus cette dimension-là. Et donc à un moment, vous noyez dans ce que vous êtes, dans ce que vous subissez, plus exactement, parce que c'est pas ce que vous êtes, mais dans ce que j'ai subi. Il y a plus de place pour la parole, en fait. C'est-à-dire que on peut plus extérioriser quoi que ce soit. Parce que on est désarmé, on est étouffé par les violences et par les questions qu'elles génèrent.
La colonie se termine, vous rentrez chez vous, comme tous les étés, vous passez le mois de juillet tout seul à la maison, cet après-midi-là, allongé sur la moquette, bien calé sur un coussin, vous vous délectez, glace à la main, du spectacle que vous offre la télé. À l'image, il est là, bandana sur la tête, nez d'aigle, celui qu'on appelle le pirate à l'assaut de l'Alpe d'Huez. Et au micro, ici, c'est Jean-François Rhin et c'est une archive France Inter.
Elefantino, à cause de ses grandes oreilles décollées, le pirate, quand le crâne rasé, il s'affuble d'un bandana, autrement dit Marco Pantani, a récidivé cet après-midi au sommet de l'Alpe d'Huez. Pantani en tête du début à la fin des 13 800 km d'ascension, qui a offert aux quelques dizaines de milliers de spectateurs agglutinés sur les pentes de l'Alpe, un véritable récital égrenant littéralement au fil des kilomètres ses adversaires. Pantani qui gagne l'étape, tout comme en 95, et qui se replace du coup à la troisième place du général, à 2 minutes seulement de Richard Virenque, que troisième de l'étape, tout juste derrière Yann Ulrich. L'Alpe d'Huez, Jean-François Rhin, France Inter.
C'est votre héros d'enfance, Pantani?
Ah ouais.
Ouais.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il était moche. et que non mais ça voulait dire que on n'était pas obligé d'avoir de coller au standard. Ouais. Et ce gars, il collait pas au standard et malheureusement jusqu'à la fin de sa vie. Mais ouais. C'était un sacré personnage.
Et vous vous dites, moi aussi, un jour, moi qui suis l'outsider, moi, celui qu'on n'a peut-être pas vu venir, moi aussi, un jour, je ferai rêver les enfants quand je serai grand. Sauf que, on sonne à la porte, vous n'aimez pas être dérangé, donc vous n'y allez pas. Sauf qu'on sonne une deuxième fois. Vous posez la glace sur la table basse, vous y allez, vous remontez le couloir, vous soulevez le lourd rideau qui protège l'entrée, vous ouvrez la porte, et il est là. Yannick, tu m'as dit que tu partais au mois d'août et que tu étais seul à la maison en juillet. Donc il le sait, donc autant se pointer. Il vous tend ensuite des photos. Quelles photos et pourquoi?
Il a pris des photos pendant la colonie de vacances, des enfants jouant. Et de moi jouant en particulier. Et c'est une manière pour lui de rappeler les bons souvenirs. Parce qu'on doit forcément se rappeler des bons souvenirs. Regarde ce qui nous lie. Comme si ce qui nous liait, c'était ces photos colorées, parce qu'en plus, il y a toutes ces couleurs fluo des années 90. C'est pas ça, le lien.
Donc vous pensez qu'il vient nier ce qu'il vous a fait, et donc s'assurer de son impunité, c'est ça? Ou est-ce qu'il vient retenter le coup, disant que vous êtes seul?
Il vient aller plus loin. Oui, il sonne à la porte quelques jours après la colonie de vacances, sachant que je suis seul chez moi. Et sachant que, je sais pas, si vous voulez, d'une certaine manière, il aurait pu me donner un bonbon. Il a donné des photos, et c'est kiff-kiff. Ouais.
À chaque phrase, il fait un pas vers vous, il veut rentrer, vous vous êtes pétrifié, vous le trouvez grand, très grand, trop grand. Il vous dit, sans rancune, pour la punition, je suis sûr que ça te fait rire maintenant. C'est quoi, ce sans rancune?
Sans rancune. Allez, on oublie. C'est pas grave, c'est pas si grave. C'est un sans rancune que d'autres ont entendu. Et qui est une manière sans rancune. Vous savez, tout au long de ce livre et de tout au long des témoignages qu'on entend et qu'on veut bien prendre la peine d'écouter, on mesure ce que c'est que la prédation. Un prédateur utilise ce genre de formule pour dire c'est pas si grave. À la limite, c'est pour ton bien. Et allez, repartons à zéro.
Vous ne dites rien, vous l'écoutez, vous vous dévorez de l'intérieur, écrivez-vous, mais cette fois vous êtes chez vous, vous sentez dans l'entrée le parfum de votre mère, alors vous trouvez la force de le repousser. Vous racontez que les ouvriers sont chez vous, qu'il ne peut pas rentrer. Vous lui jetez les photos à la figure, vous lui claquez la porte au nez. Un peu plus tard, vos parents sont de retour. Comme tous les soirs, votre père dit « il y a quelqu'un ». Votre mère vous demande d'aller chercher les packs de lait. Comme tous les soirs, votre père râle en ouvrant le courrier. Et votre mère vous explique comment se servir de la cocotte minute que par mégarde vous venez de brûler. Comme tous les soirs, parce que ce soir-là, il ne se passe, il ne se dit rien de spécial?
Rien. Rien du tout. C'est un jour comme les autres. Allez savoir. J'ai fermé la porte au nez de ce type. Ouais. Et c'est ma fierté d'enfant pour toujours.
Vous dites, les questions n'ont pas été posées non plus. Si vous êtes trois taiseux.
Oui.
Enfin, votre mère, elle parle beaucoup, mais elle écoute, parce qu'elle n'aime pas le silence, mais elle n'écoute pas vraiment non plus. Est-ce que, s'il vous avait posé la question,
oui.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette colonie de vacances? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Est-ce que vous auriez répondu?
C'est difficile de l'affirmer, mais je pense que oui. Mais je pense que ça participe aussi d'une époque où on ne parlait à de... chez nous, on ne parlait pas de grand-chose, certainement, mais ou des choses importantes, mais ça fait partie d'une époque où ce sujet-là mais n'était même pas... pas envisagé, envisageable, vous voyez ce que je veux
ça
dire?
Ça n'existe pas, quoi.
Donc ça n'existait pas. Mais si on m'avait posé la question, ça tient à ça. Parfois, une question.
Mais aujourd'hui, dans les récits des victimes, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. Hein. Personne ne m'a rien demandé.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut tellement de courage pour raconter que ce qui aide, c'est qu'une main nous soit tendue, quoi, une perche, une question, quoi.
Exactement.
Alors la discussion se résume à « ça a été aujourd'hui ? Oui, rien de particulier. Ce soir-là, vous ne vous demandez même pas s'il pourrait revenir, vous ne savez pas. Ce soir-là, ce que vous savez, c'est que vous n'êtes pas aussi costaud que des héros sur un vélo. Peut-être, écrivez-vous, peut-être que je ne suis qu'un garçon qui ravale sa honte, qui creuse de ses talons une place malgré lui, où l'on respire à peu près librement 12 ans, et je ne suis déjà plus tout à fait, plus un enfant, justement. Je m'enterre ce jour, au grand jour. »
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Sono le quattro e mezza ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
Et je ne saurai jamais assez vous remercier, Adrien Borne, d'avoir mis du Lucio Battisti dans la playlist d'Unique en son genre. Elle vous emmène où, cette Acquazzurra, Acquachiara?
Ah, elle m'emmène en Italie, là, cette eau, et ces chanteurs là, qui sont merveilleux, Mina, Paolo Conte et tous les autres. L'Italie, c'est cette terre... C'est cette terre de, je sais pas, de tranquillité. C'est cette terre de légèreté, c'est cette terre d'amour aussi, parce que... C'est en Italie que nous avons décidé de nous marier avec mon épouse. Donc, et vous savez quoi? Je ne pipe pas un mot d'italien et j'en fais une fierté parce que pour moi ça raconte encore un peu plus ce lieu comme ça où les gens m'entourent, je ne comprends pas ce qu'ils disent et
ça
très bien
cool.
Et c'est très cool, c'est très cool, ça a l'air cool ce qu'ils disent.
Donc je vous apprendrai pas.
Non, m'apprenez surtout pas, c'est recommandé.
Il y a un truc à ne jamais faire, c'est traduire les chansons italiennes. Ou alors on le fait avec quelqu'un qu'on n'aime vraiment pas. C'est un peu du pouvoir d'existence. C'est le fil de
un
vos
bon
souvenirs
entendeur.
Qu'on remonte ce soir. La vie qui commence est le titre de votre deuxième roman. Unique en votre genre, vous êtes notre invité.
France Inter, unique en son genre.
On a laissé Yannick à la porte, les photos sur le palier, la cocotte minute brûlée. Ellipse, 20 ans, on vous retrouve Adrien Borne à 30 ans, dans un grand studio meublé à Paris, studio moderne et froid, dites-vous, avec un frigo qui sonne s'il est ouvert trop longtemps et toujours du champagne au cas où, dedans. C'est une vie dont vous diriez qu'elle est quoi ? Fonctionnelle ?
Qu'elle est fonctionnelle et puis qu'elle cherche à épater qui veut bien être épaté.
Ouais.
J'aime bien ce mot, épater. Parce qu'il explose, donc il dit bien ce qu'il veut dire.
C'est « je suis là, regardez-moi ».
Autant que possible.
Ouais. Vous êtes devenu journaliste à la radio, d'abord le journal, les flashs, la politique sur RMC ou sur RTL. Écoutez.
Le poker, c'est l'une des passions de François Bayrou. Le centriste serait d'ailleurs un bluffeur de première, raconte l'un de ses anciens compagnons de route. Un bluff dont il aura usé pour le pire en cette fin de campagne. Jeudi dernier, sur France 2, face à Daniel Cohn-Bendit, il va feindre le coup de sang. En réalité, il est arrivé sur le plateau, carte en main. Lui-même reconnaît qu'il avait fait des recherches avant l'émission pour piéger son adversaire. Même stratégie lorsqu'il dénonçait les manipulations des instituts de sondage.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Vous dites qu'à l'époque, vous êtes un journaliste en surplomb. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Pour qu'on sache comment ça marche en France.
Vous n'êtes pas collé au réel?
En fait, à ce moment-là, je pense à un rapport au réel, à la réalité. C'est pas tout à fait les mêmes mots, c'est pas tout à fait la même chose. J'arrive pas à savoir où je suis positionné. Je suis perdu. En surplomb, c'est peut-être au sens où je suis attaché à quelque chose. Je sais pas. Vous voyez, moi-même, j'ai encore du mal à l'exprimer, ça. À l'expliquer, plus exactement.
Vous diriez que vous êtes heureux à cette époque-là de votre vie?
Pas du tout.
Vous avez quel genre de vie sociale, quel genre de vie amoureuse à ce moment-là?
Assez classique, mais tout me demande un effort, parce que je crois que la... Alors, je voudrais pas reconstruire a posteriori, mais le masque est trop lourd, quoi. Le masque est trop lourd, la persona est trop écrasante pour moi, et il y a quelque chose qui dysfonctionne et je ne sais pas ce que c'est.
Et le lien à l'autre, du coup, est impossible.
Impossible. C'est un chemin parallèle aux autres. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne rentre plus en interaction avec les autres. Bien sûr, on rentre en interaction avec les autres, on parle, on discute, etc. Mais à l'heure de se confier, à l'heure de se livrer, à l'heure de s'épanouir aux côtés de quelqu'un, avec les autres, c'est plus possible.
Mmh. Près de vous, il y a ce grand-père, hein, Dandy Bourguignon, ex-dandy mais toujours misanthrope, capable d'aimer seulement en pointillé. Vous êtes le seul de la famille à avoir noué un vrai lien avec lui et ses fantômes, ses mystères, ses manies, lui et ses histoires qu'il sait si bien raconter, au point que même à 30 ans, vous aimez prendre le train direction Tonnerre pour aller l'écouter.
Gare de Tonnerre.
Ben oui, on voyage très très vite à la radio.
C'est
il y a des ruptures d'espace-temps qui
très,
sont
très fort.
Mais évidemment. Mais vous connaissez ça par cœur. Lucien doit partir en EHPAD, la grande maison il va la vendre, mais avant il faut la vider. Ce qui veut dire faire le tri dans ses souvenirs. Il faut creuser la fosse aux souvenirs. C'est quoi cette fosse? C'est une légende? C'est une obsession?
Cette fosse, pour le Lucien, c'est une obsession. Fosse de Tonnerre, 8 mètres de diamètre, plus grand lavoir rond d'Europe. Et Lucien, il en a fait sa famille, sa boîte à histoire. Parce qu'il y a des mythologies autour de cette fosse nombreuses, sur des serpents géants, sur des évêques qui auraient sauvé des enfants. Elle change de couleur plusieurs fois par jour. C'est un lieu absolument extraordinaire. Qui a de quoi nourrir l'imaginaire.
Mais ça, pour un petit garçon, c'est merveilleux. Sauf que pour l'adulte que vous êtes, il y a aussi les silences du grand-père. Il y a des silhouettes qui errent. Il y a cette montre arrêtée à 6h47 qu'il pose toujours avant de manger à côté de son assiette. Pourquoi ce geste? Pourquoi ce mutisme? Pourquoi ces questions sans réponse? Un jour, ça explose. Trop de secrets rentrés, trop de non-dits, trop de blessures enfouies. Vite de l'air, vite la fosse. Vous y plongez, vous coulez, vous remontez à la surface et alors vos souvenirs aussi. C'est la deuxième partie de votre livre. Et elle nous tient de ligne, en haleine. C'est extrêmement bien écrit, bien mené. On y croit dur comme fer, sauf que tout est inventé. Le grand-père n'a jamais existé. Pourquoi l'avoir créé?
Alors ça, si on se doit dire une chose ce soir, c'est ça. Et c'est la part de réappropriation. Moi, ce qu'on m'a volé, on l'a volé à d'autres. Et derrière, on a changé toute l'histoire. L'histoire prévue. L'histoire voulue. Et donc moi, vous savez ce que j'ai fait? J'ai repris la main. J'ai réécrit l'histoire. On parlait de réel, de réalité. J'ai choisi les personnages. Lucien, il n'existe pas. Tonnerre, j'y suis jamais allé. Ce sont mes décors. Ce sont mes personnages. Ce sont mes formes. Si ça doit piquer à un endroit, ça pique à cet endroit. C'est celui que j'ai choisi. Et ça, ça s'appelle un peu reprendre la main. Et c'est tout ce qui me restait à un moment.
Vous racontez dans cette deuxième partie fictionnée comment les souvenirs remontent petit à petit. Il y a un couloir, il y a la douleur aux jambes et puis il y a le jogging rouge. Dans la vraie vie, ça s'est passé comment? Comment est-ce qu'on passe de 20 ans d'amnésie à ce récit?
Pour moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai pas la réponse.
C'est-à-dire que les choses sont revenues comme ça, par flash, à 30 ans?
Par petite, alors oui, un peu plus tard encore, j'avais 35 ans, 36 ans, je prends l'image de cette grande mosaïque romaine, restons en Italie. Si vous y êtes collé, vous voyez trois carreaux. Vous voyez ce que je veux dire? Puis vous reculez, vous voyez que ça fait un visage. Puis vous reculez encore et vous avez soudainement le paysage et la scène dans son ensemble. Et moi, ça s'est passé comme ça pendant plusieurs mois. Comme ça. Pendant plusieurs mois, j'ai fait ce petit centimètre de moins ou de plus. J'ai reculé comme ça. Et un jour, bah oui, j'ai eu la scène dans son ensemble. Cette scène avec ce Yannick dans la colonie de vacances et cette porte que je lui ai refermée au nez.
Et à ce moment-là, pour vous, il se passe quoi? Il y a un effondrement intérieur ou est-ce qu'au contraire, ça y est, enfin vous comprenez, il y a des choses qui se mettent en place et au bon endroit?
Les deux. Les deux, parce que vous trouvez, allez, un peu d'explication. Mais moi, on m'avait volé 20 ans. C'était la perdition à nouveau. Ou encore. Autrement, simplement. C'est pour ça que c'est si coûteux de parler. On ne mesure jamais ce que ça représente de savoir, de parler, etc. Jamais. Et moi, on m'avait pris 20 ans. J'aurais été qui sinon? Comment ça se serait organisé? Comment ma vie s'il n'y avait pas eu ça? Si je m'étais souvenu? Si... Donc, là commence des fouilles.
Alors, des fouilles. En vous-même, sur le divan d'un psy, de plusieurs psys, vous cherchez le bon, vous ne trouvez pas, vous continuez à errer, chercher, tâtonner, et puis vous tombez sur celle qui vous enverra loin, très loin de vous-même, ce qu'elle vous conseille. C'est un rituel, un chaman, en Amazonie, et vous y allez. Vous êtes à ce moment-là, écrivez-vous, une plaie vivante à distraire autour de vous, d'autres plaies vivantes, d'autres fracassés de la vie. Ensemble, vous buvez des décoctions, vous entendez des incantations, mais au départ, rien ne marche, vous ne décollez pas, Adrien Borne, vous résistez. Et puis un jour, ça y est, vos mains sont des pinces de crabe, sur vos tempes coulent des gouttes de sang, vous portez la couronne du Christ sur la tête, autant le dire, vous êtes en transe. Que va changer cette transe ou ce voyage pour vous?
Ces bruits-là, vous voyez, ça n'arrête pas, évidemment, dans l'Amazonie. Et je suis allé au bout du monde, littéralement au bout du monde, chercher des réponses. Pour qui me connaît un instant, c'est pas trop moi, ça. Hein. C'est-à-dire que...
Toujours le lapin de trois semaines, c'est ça?
Ouais, et puis Paris-Marseille, j'ai l'impression d'être allé loin, déjà. Alors là, le Paris-Lima, c'est compliqué. Et je suis allé chercher ces réponses-là au bout. Et c'est-à-dire que j'y ai vu... au-delà des visions et des pinces de crabe, que j'avais envie de chercher une lumière, que j'avais envie de vivre.
Ouais.
Voilà. Donc je suis allé chercher la vie dans une expérience qui m'a ramené à des moments avec un sentiment de mort, à l'inverse, parce que c'est une épreuve que ces décoctions. Mais c'était la vie que j'allais chercher, loin, dans un monde qui pourrit en permanence sur place. L'Amazonie, c'est ça. Ça pourrit, ça tombe, et ça revit en même temps dans cette espèce de cycle qui ne s'arrête jamais.
Et alors, quand vous rentrez, vous vous mettez à parler, à raconter, sauf que, comme vous l'écrivez, raconter, c'est poser une bombe au pied des autres et la déflagration fait toujours des dégâts. Quels dégâts? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous racontez?
On ne me dit rien de très blessant, soyons clairs. En revanche, on sent la secousse. Vous voyez, les parents, le père, il est rentré en disant « il y a quelqu'un ». La mère, elle est rentrée en disant « tu peux aller chercher les packs de lait ». Et vous, vous n'avez rien dit, et 20 ans après, vous dites voilà ce qui s'est passé. Donc ils repensent à ça, forcément, eux aussi. Et donc, forcément, eux aussi, ils se fissurent. Et c'est compliqué de partager avec les autres une machine à fissurer. Moi, c'est pas mon rêve dans la vie de partager ça avec les autres.
Et puis, on ne veut pas y croire, on ne peut pas croire que vous ayez tout oublié pendant 20 ans. Donc quoi, on vous soupçonne d'avoir caché? On vous demande de vous justifier?
C'est quand même quelque chose, ça, vous savez. Aller voir des gens que vous connaissez depuis toujours et leur dire « je t'ai pas parlé » et parce que je ne savais pas. Je me mets un peu à leur place. Je cherche pas à trouver des explications ou des excuses, mais je me mets à la place d'eux, quand même, un instant. Recevoir ça, c'est par où on prend le problème? Et alors ça, je l'ai inventé. Un personnage qui doute. Je l'ai inventé, ce personnage de la tante, parce que elle a lu des choses. Et alors, quand on lit des choses, on sait. même si c'est des livres de psychologie un peu tapés des années 70. Mais on sait quand même que parfois la mémoire elle reconstruit, parfois on croit savoir et en fait on sait pas.
C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on essaie de vous remettre le doute parce qu'on veut pas la prendre en pleine face, cette réalité-là, parce que d'une manière ou d'une autre, elle nous renvoie ce qu'on n'a pas fait ou pas vu.
Mais évidemment. Évidemment que c'est une manière de dédouaner. Une manière de se dire, on aurait dû voir, on n'a pas vu, mais c'est peut-être parce qu'il se trompe. Donc.
Alors, autour de vous, il y a aussi une autre attitude qui consiste à dire, il faut aller porter plainte.
Oui.
Il faut faire.
Oui.
Mais vous, ça, c'est pas votre problème.
Bah non. Enfin, c'est mon problème et en même temps, c'est pas ma priorité. Et là, si vous voulez, parce que j'aimerais qu'on comprenne à quel point, pour une situation, une violence, une personne fragilisée, il y a 1000 réponses. C'est pas possible, il n'y a pas de réponse standard. Il faut envoyer ça à la poubelle, le côté standard. Mais il faut faire ça, mais je comprends pas que t'aies pas fait ci. Moi, on m'avait volé 20 ans. On m'avait volé mon enfance et on m'avait volé 20 ans parce que j'avais oublié. Et alors savoir qui c'était et savoir si il serait condamné, pas condamné, si la police allait le retrouver, s'il y avait prescription, s'il n'y avait pas prescription, c'était trop pour moi. Ouais. Beaucoup trop pour moi.
Votre réponse, ce sera ce livre, évidemment. Magnifique réponse. Pleine de vie, puis remettre de la beauté dans l'immonde. Chapeau. Mais avant ce livre-là, il y a eu d'autres mots que vous avez posés. Sur ce qui vous est arrivé, sur des mots que vous écrivez en 2016 sur votre compte Facebook. Si je dis 2016, c'est important, c'est qu'on est... MeToo n'a pas encore explosé, hein ?
Non.
C'est avant.
Oui.
Et vous dites, j'ai été victime d'un pédocriminel. Qu'est-ce qui vous pousse à le raconter ?
Des hommes que j'interview à l'époque pour iTélé, qui sont des hommes qui décident eux-mêmes de prendre la parole, de la parole libérée. Ils dénoncent les actes du père Prénat et à Lyon, dans l'église catholique. Et ces hommes-là se dressent face à l'homme qui leur a fait du mal et à une institution à la fois. Et on parlait de prendre la parole tout à l'heure. Ça s'appelle le courage par capillarité. C'est comme ça que je dis les choses. Et ces hommes-là... Enfin, je leur dois quelque chose. C'est de m'avoir offert un peu de force pour parler. Et à cette époque-là, je trouvais que ça c'était pas réécrit en quelques lignes, parce que je dis pas grand-chose. C'était le seul moyen que j'avais. Et je leur suis éternellement reconnaissant.
Comme d'autres, vous sont certainement éternellement reconnaissants, Adrien Borne. Est-ce que je peux me permettre de lire un passage de ce,
oui,
de ce post Facebook ? Je voulais vous dire que je n'ai pas porté d'accusation. J'ai oublié son nom et son visage, oublié le superflu pour ne garder que l'humiliation. À ce jour, il a peut-être recommencé, fait encore plus mal et je n'ai rien fait pour l'en empêcher. À ma souffrance vient donc s'ajouter la culpabilité de ne pas avoir parlé à l'époque, de ne pas avoir eu ce courage. Je voulais vous dire, ou disons te dire, si le tutoiement doit nous mettre plus en confiance, que je ne veux pas parler de ceux-là ou de ceux qui les protègent. Te dire que je veux te parler à toi, victime de leurs mains et de leur sentiment de puissance. Te dire que nous ne périrons pas de leur violence, qu'il ne faut pas avoir peur de hurler, de ne pas avoir peur de chuchoter ou de murmurer, ne pas avoir peur de nommer. Non. Pour toi et pour les autres que tu sauveras, il faut dire, et dire encore, dire que notre enfance n'est pas un terrain de jeu pour adultes, dire que nous rendrons les coups. Voilà, je voulais dire tout cela. À l'heure où la parole retrouve un sens, je voudrais de l'écho, de la résonance et des vibrations, et te dire à toi qu'il n'est jamais trop tard, et que la vie nous appartient.
Brother, should you need it, I'll put your new rhythm for your spirit. All we've been getting wild about a minute. Chambers of the breeze, horse power for the street. What it means is you got my devotion. How your face it all hot wide open. It's your love up and setting these wheels in motion. Got me galloping full speed. Who's power for the streets?
Thank you. as if you need it. You all got your new rhythm for your spirits. Cause it's a wild world, that's why I'm sending it. My love, harmony.
Jonathan Jeremiah, Horsepower for the Streets. Vous êtes sur France Inter, c'est Djoubaka qui signe la programmation musicale de cette émission. Vous en retrouvez bien entendu toutes les références sur l'appli France Inter ou sur franceinter.fr à la page d'Unique en son genre.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Et c'est l'heure d'ouvrir notre labo du genre, ce drôle d'endroit pour des rencontres d'objets, objets qui racontent chacun le masculin et le féminin de tous nos invités, en toute subjectivité, en toute liberté. Pour vous, Adrien Born, dites-nous, quel est l'objet qui a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui? Vous l'avez là?
Oui, je suis venu avec, je l'ai emballé soigneusement.
Comme du papier bulle et dans une boîte.
Oui, un sulfure.
Alors qu'est-ce qu'un sulfure? Expliquez-nous.
Un sulfure, c'est ces boules de verre, souvent c'est sous forme de boules, et il y a de l'émail à l'intérieur qui donne ces couleurs un peu... C'est un presse-papier.
Je peux regarder?
Mais allez-y, c'est lourd, hein, je vous préviens.
Ah oui, c'est très lourd.
Et c'est un des trois objets que j'ai gardé de ma grand-mère. Et c'est donc un presse-papier. Et ma grand-mère qui, sur le tard, a pu voyager dans sa vie parce que enfin elle en avait les moyens. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle mettait ses presse-papiers dans des vitrines. Et elle en avait fait des objets de collection et qu'elle regardait. Et je crois que cette grand-mère, Marguerite, qui avait beaucoup souffert dans la vie, elle m'a appris, et cet objet il est en permanence sur mon bureau, et notamment quand j'écris, que le beau il va se nicher là où vous décidez. Et elle avait mis des presse-papiers dans des vitrines, et c'était là que le beau se nichait.
Et vous, le beau, vous avez accompli cette prouesse de le remettre absolument partout dans ce livre, La vie qui commence, dont je ne ferai que recommander la lecture. Vraiment, il y a une poésie sublime. Ça dit des choses essentielles, évidemment, mais c'est surtout, c'est beau. C'est beau et ça, c'est votre victoire incroyable à vous. Adrien Born, merci infiniment.
Merci
d'être venu nous voir. Je vais me permettre de lire un dernier extrait, pardon, hein, mais je peux pas m'en empêcher. Vous permettez, je peux?
Oui.
Sur ce sourire à demi dont on parlait en début d'émission, si je ne souris qu'à demi, ce n'est pas une posture, c'est pour ceux qui sont comme moi et qui savent bien que jamais peut-être on ne peut sourire tout à fait, qu'il faut une gymnastique de tout un siècle pour faire respirer un coin de bouche après ça. C'est à vous que je souris pour vous dire que le chemin parcouru est déjà formidable et que nous ne baisserons pas la garde et que nos voix sonnent justes et que je placerai toujours au plus haut dans mon cœur les à demi, bien plus haut que les tout plein. Je suis à demi éventré, estropié, recousu, consolidé, mal stabilisé. Et alors, regarde-moi, grand-père, je suis à demi comme toi, mais je tiens bon, nous tenons bon, comme tous les autres, légions si nombreux, dont j'ai parfois lu les mots terribles, dont j'ai admiré si souvent le courage immense, dont j'ai vu les yeux baissés à se croire inadaptés. La force ultime n'est pas de faire semblant de porter du fer. Laissons ça aux fanfarons. Je suis fière d'être de porcelaine blanche, si fine qu'on y voit à travers 1000 morceaux possibles. Elle laisse passer la lumière et les reflets sont des ombres folles. Les miennes, pour vous, compagnons, à demi. La vie qui commence est aux éditions Jean-Claude Lattès. Je signale également que votre premier livre, Mémoire de soi, vient de paraître aux éditions Poche. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.